Il est 11h, merci d'être avec nous sur Fréquence Mistral, autour de la table de François Malabave, des invités de marque. Bonjour François.
Bonjour Camille, bonjour à tous. Et oui, comme tout le temps pendant le Festival des Correspondants, c'est une émission spéciale. Tous les jours à 11h sur notre antenne, pendant ce festival, eh bien c'est place aux correspondances. Et avec pour ce premier plateau un écrivain qu'on connaît un tout petit peu qui s'appelle Arnaud Catherine et qui nous fait l'amitié d'être ici pour parler de pas exactement l'amour, Charles Berberian qui est graphiste et qui est peintre et qui va faire des dessins particuliers, il nous expliquera ça pendant le festival. Également Ambre Murard qui elle a flashé sur les photographies de Hans Sylvester, le grand photographe qui sera présent pendant les correspondances et puis bien sûr, et premier invité de notre plateau, le directeur du Festival des Correspondances, Olivier Chaudançon. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Un temps magnifique pour tout le week-end et toute cette semaine. C'est du bonheur pour les Correspondances 2015.
C'est plus agréable quand même quand le ciel est bleu de façon stable.
C'est vrai. Donc aujourd'hui, c'est l'ouverture, Olivier.
Oui, on inaugure officiellement à 17h.
À 17h, avec aussi deux belles rencontres dans la journée littéraire, bien sûr.
Oui, on a eu envie que cette première journée soit emblématique de ce que souhaite être le festival. Alors on ouvre les rencontres littéraires avec Javier Celcas, un très grand auteur espagnol. Et en soirée au Théâtre Jean le Bleu à 21h, une lecture d'Un amour impossible de Christine Angot par Christine Angot.
C'est une prouesse que de faire venir Christine Angot en province, en Provence, pour ce type d'exercice.
Il faut lui donner confiance, c'est quelqu'un d'anxieux, donc si elle sait pourquoi on l'a choisi, si on lui explique que les conditions seront bonnes au sens où on est dans un beau théâtre avec une équipe technique compétente, que le son sera bon, etc. Voilà, elle vient.
Elle fait également partie de ces auteurs qui ont beaucoup de succès en France, un petit peu comme Virginie Despentes d'ailleurs, qui est programmée aussi. Et puis on a des auteurs aussi dans votre festival qui sont des auteurs à découvrir, qui sont peut-être un petit peu plus confidentiels. Et nous, on doit dire, c'est ceux dont on se délecte d'avoir les lectures et en même temps les contacts. Vous arrivez à orchestrer, à harmoniser votre programmation avec ces deux aspects?
Oui, c'est vraiment un double projet qui est mené par le festival, c'est saluer les grands auteurs, on a cité Christine Angot, il y en a d'autres, et puis c'est aussi donner la parole à des jeunes auteurs, des auteurs de premiers romans, donner la parole à des auteurs qui ont déjà quelques livres derrière eux, mais qui n'ont pas encore rencontré un public plus large, donc c'est ce travail-là qu'on mène, de mise en lumière, de proposition, et c'est vrai que pour se guider là-dedans, dans cette recherche d'équilibre, j'ai toujours en tête l'idée de faire en sorte que à peu près la moitié des auteurs invités chaque année le soient pour la première fois à Manosque, ce qui nous permet des compagnonnages. Il y a des gens qui sont venus 5-6 fois au cours des 17 éditions, et puis encore une fois chaque année, moitié, petite ou grosse selon les années, de gens qui découvrent le festival et qu'on a envie de faire découvrir au public de Manosque.
Ça permet d'assurer une certaine notoriété aux correspondances.
Ça permet aussi, si j'en reviens aux auteurs à découvrir, de ne pas non plus en faire un festival fermé, parce que c'est vrai qu'il y aurait quelque chose de confortable à inviter des auteurs qu'on connaît, qu'on apprécie. On le fait évidemment, mais on s'oblige à cette ouverture permanente.
Et puis on rappelle aussi le sens, les deux sens des correspondances. D'abord les écritoires qui sont disséminés dans la ville, voire un petit peu plus loin que la ville, qui permettent aux gens d'écrire, parce que la littérature sans l'écriture, ça ne peut pas exister non plus. Donc il faut pratiquer l'écriture pour notamment les jeunes et les jeunes lycéens, collégiens de Manosque qui sont un petit peu investis dans ce festival. Et puis enfin aussi cet exercice particulier que vous demandez à des auteurs qui sont investis par une introversion particulière, tout d'un coup d'être sur une place de Manosque devant 400 personnes qui décortiquent chacun de leurs mots, chacune de leurs mimiques. Ça doit être assez stressant pour certains auteurs que vous connaissez bien, Olivier.
J'imagine, en effet, il y en a qui ne sont pas à l'aise dans cette expression publique, mais en même temps, si on arrive à bien les guider, c'est-à-dire si la personne qui les interroge est précise dans la lecture qu'elle propose du livre, très vite, je crois que comme ils sont là pour parler d'un texte qu'ils connaissent intimement, qu'ils ont créé, il y a assez rapidement et presque tout le temps des choses très fortes qui sortent de cette confrontation.
Avec en plus un public averti qui est en face d'eux, qui connaît leur œuvre, leur biographie, la plus intime parfois.
On a à cœur d'accompagner les festivaliers dans leur préparation. Donc c'est vrai que par exemple, les gens qui participent au comité de lecture, d'abord on leur donne la programmation du festival en avant-première, et puis on essaye de faire en sorte que les livres, notamment ceux de la rentrée, qu'on trouve en librairie vers le 18-20 août, eh bien on arrive avec la complicité des éditeurs à leur donner ça dès la mi-juillet. Donc c'est vrai que ça leur laisse plus de temps pour lire, parce que c'est une rentrée quand même volumineuse, on invite beaucoup d'auteurs, on a beaucoup de gros pavés cette année, donc des livres assez longs à lire. Donc il y a une partie du public, en tout cas, notamment le comité de lecture, qui a eu le temps de découvrir, de lire, et puis après le reste du public, certains ont lu, certains n'ont pas lu, certains liront après.
Voilà. Ça nous permet de saluer nos amis Manoskin et les Manoskines qui travaillent au comité de lecture, mais aussi Éclat de lire, qui travaillent avec l'équipe des correspondances. Il y a toute une synergie autour de ce festival et tout le monde en sort ravi puisqu'on apprend chaque fois des choses et on en sort avec des contacts, avec des comédiens, avec des musiciens, avec des écrivains, évidemment. Alors justement, je ne dis pas ça par hasard, comédien, musicien, c'est aussi l'un des volets des correspondances avec pendant ce festival, il y a 4 représentations particulières et puis il y aura aussi d'autres mouvances dans la ville, Olivier.
Alors, si on parle des soirées au théâtre Jean Le Bleu, en effet, on a cité l'ouverture aujourd'hui. Demain jeudi, ce sera Rachida Brakni qui va venir lire un texte d'Annie Ernaux, L'autre fille. Vendredi, Jean-Quentin Châtelain pour la correspondance de Jack London. Samedi, on va s'intéresser à Roland Barthes avec un duo Laurent Poitrenaud, Xavier Gallet. Et puis on finira au théâtre Jean Le Bleu toujours dimanche, comme une sorte de feu d'artifice avec Au bonheur des listes, un texte assez indescriptible, il faut aller l'écouter.
Et puis après il y a les afters, c'est-à-dire les soirées au café provisoire et qui là aussi sont particulièrement prisées.
Et qui ont pour rôle de vraiment faire fusionner musique et littérature selon différentes formules et modes. On retrouvera Babix, un habitué du festival. On retrouvera Barbara Carlotti, une autre habituée, mais qui viendra avec un écrivain, Jonathan Coe. Et puis Virginie Despentes, à qui nous avions proposé une sorte de carte blanche. Venez faire ce que vous avez envie de faire. Et ce qu'elle a envie de faire, c'est venir avec un groupe de rock lyonnais, Zéro. Et elle va lire, non pas ses propres textes, mais principalement un texte qui est important pour elle, qui s'appelle Le Requiem des Innocents de Calafert.
Donc une très belle chose. Et la clôture du festival, alors là, elle nous a fait plaisir, vous le savez. On est des admirateurs aussi bien du Super Mama Jumbo que de Sylvain Prudhomme, qui était en résidence ici même à Manosque et qui a clôturé sa résidence cette année. Sylvain a réussi à faire descendre de Paris, je crois, deux des musiciens du Super Mama Jumbo qui viendront tout simplement communier à la musique et à la littérature.
Oui, je crois que c'est un moment assez rare parce qu'il n'est pas courant de pouvoir mettre sur scène les personnages d'un roman. Et donc là, son roman, parce que c'est un roman, parle de ce groupe mythique, Super Mama Jumbo. Il retrouve certains membres du groupe et ils arrivent et ils vont faire une lecture musicale ensemble.
Alors le roman en question, c'est Les Grands, bien sûr, qui est magnifique, un très beau livre de Sylvain Prudhomme. Sylvain, que nous aurons dans un plateau pour parler de cette activité. Le festival se présente bien, Olivier, on l'a dit, les écritoires sont en place, votre équipe est mobilisée, ça vous permet, et profitez-en, de remercier tous les membres de votre équipe.
Je ferai suivre ces remerciements. Ils y seront sensibles. Non, je crois que tout se prépare et se présente très bien.
Les soutiens, ils sont toujours là, DLVA, la région.
DLVA, la région, le département, de façon un peu plus timide quand même, l'État qui nous soutient bien, et puis nos partenaires, La Poste, Orange, La Sofia, Géocell, et puis ceux qui nous aident à Manosque, Pedinelli qui nous prête des voitures, le domaine Saint-Jean qui nous permet d'avoir des soirées sympathiques.
Un petit peu arrosées, mais ce qu'il faut.
Oui, et puis pas que ça, nous avons aussi les Calissons du Roi René, qui sont de nouveaux partenaires et qui nous permettent d'accompagner de façon très agréable le domaine Saint-Jean.
On va arrêter là, Olivier, il est presque l'heure de passer à table, alors ça suffit. Merci encore, Olivier. Là, c'était le directeur des correspondances qui parlait. Je vais m'adresser, mais juste avant lui, peut-être qu'on va faire une petite pause musicale, à l'autre casquette d'Olivier Chaudançon, au directeur de la Maison de la Poésie à Paris. Il a parlé tout à l'heure de Babix. Et Babix s'apprête à donner un spectacle très particulier à Manosque. Je vous propose de rentrer tout doucement dans l'univers de Babix. Son dernier album est magnifique. On se retrouve tout de suite après pour parler de cet auteur, compositeur particulier qu'est Babix et qu'Olivier Chaudançon a réussi à faire venir pour la deuxième fois, me semble-t-il, à Manosque.
Gaston Miron, La marche à l'amour. Tu as les yeux pères des champs de rosée. Tu as des yeux d'aventure et d'années-lumière. La douceur du fond des brises au mois de mai, dans les accompagnements de ma vie en friche. Avec cette chaleur d'oiseau à ton corps craintif. Moi, qui suis charpente et beaucoup de fardoche, moi je fonce à vive allure, et entêté d'avenir, la tête en bas, comme un bison dans son destin. La blancheur des nénuphars s'élève jusqu'à ton cou pour la conjuration de mes manitous maléfiques. Moi qui ai des yeux où ciel et mer s'influencent pour la réverbération de ta mort lointaine. Avec cette tache errante de chevreuil que tu as, tu viendras. Tout ensoleillé d'existence, la bouche envahie par la fraîcheur des herbes, le corps mûri par les jardins oubliés, où tes seins sont devenus des envoûtements. Tu te lèves. Tu es l'aube dans mes bras, où tu changes comme les saisons. Je te prendrai marcheur d'un pays d'haleine, à bout de misère et à bout de démesure. Je veux te faire aimer la vie, notre vie. T'aimer fou. De racine à feuilles et graves, de jour en jour, à travers nuits aiguës, de mois longs, nos vertus silencieuses. Je finirai bien par te rencontrer quelque part, bon Dieu.
Babix qui sera sur scène pendant les correspondances dans un exercice un petit peu particulier, Olivier Chaudançon.
Eh bien, il présente un travail qui a débuté à Manosque. Le point de départ, c'est la première invitation de Babix en 2008, avec toujours cette idée de carte blanche, musique et littérature. Il est arrivé à l'époque avec une partie de son répertoire de chansons que nous connaissions, mais qui évoquait la littérature ou qui s'en inspirait. Et puis, il a eu l'idée d'ajouter à ça vraiment des créations. Il s'est mis à mettre en musique des poèmes. Donc voilà, ça a démarré en 2008. Et puis... à la Maison de la Poésie, à Paris, j'ai renoué contact avec Babix. Il avait avancé sur ce projet et il souhaitait même le mener à terme sous la forme d'un album, Cristal Automatique. Donc vraiment avoir un ensemble de chansons cohérent, fondé sur la mise en musique de poèmes. Si bien que je l'ai invité... 3 ou 4 fois durant une année pour montrer ce projet évolutif, jusqu'à une dernière représentation qui était le projet achevé avec l'album qui était enregistré. Et donc comme tout ceci avait démarré à Manosque, il m'a semblé judicieux de boucler la boucle et de faire entendre ce travail aux correspondances.
Et on va en profiter, bien évidemment. Babix rend hommage, il y a toute une galerie de portraits et des gens très très fréquentables dans ce disque magnifique. Tout à l'heure, c'était Gaston Miron, mais il y a aussi Tom Waits, il y a Jack London de mémoire, il y a Charles Baudelaire,
Rimbaud. Jean Genet, Rimbaud.
Donc, des personnages qui ont compté pour lui et des textes qu'il a... qui lui ont insufflé une composition particulière et des ambiances, puisqu'on l'a bien vu dans cet extrait musical. Babix travaille beaucoup sur les ambiances musicales et sur le texte qu'il va interpréter. Quoi.
Et c'est un très grand musicien, compositeur, arrangeur, voilà, c'est un artiste complet.
Donc, spectacle en effet, intimiste avec Babix. Donc ce sera quel jour, Olivier ?
Ce sera vendredi soir.
Vendredi soir, Babix qui va présenter, et puis en plus, alors votre album, il est magnifiquement bien réalisé, avec un très beau packaging, comme on dit dans le milieu, il est superbe, et tous les textes sont écrits, donc on arrive à bien percevoir l'esprit qui anime cet album et ce personnage étrange qu'est Babix.
C'est presque un livre-disque.
Exactement, et c'est une bonne chose. Donc merci à la Maison de la Poésie et à ses connivences avec les correspondances d'avoir créé cet événement. Olivier, on va vous retrouver chaque jour sur notre antenne avec le programme, c'est devenu une tradition sur notre antenne, le programme du jour par le directeur des correspondances, et bien sûr, on vous verra sur toutes les scènes. Et tout à l'heure, à 18h, c'est ça l'heure de l'ouverture officielle?
Ah non, l'inauguration, c'est 17h.
17h.
C'est à ne pas rater parce qu'on a un vrai concours de discours, enfin, c'est une sorte de performance.
C'est vrai, je me souviens du discours de l'année dernière, c'était assez marquant. Et à 18h par contre, c'est l'autre événement, c'est l'apéritif. Et ce sera sur le parvis de la place de l'Hôtel de Ville à Manosque.
À 17h, c'est l'inauguration, à 18h, la première rencontre littéraire avec Javier Cercas.
Oh. Pardon. Et puis la soirée avec Christine Angot et évidemment le festival qui sera lancé. Merci Olivier, très bon festival et toutes nos amitiés à votre équipe qui nous a, j'allais dire, sauvé la mise avec du côté technique il y a à peine quelques minutes. Merci encore, très bon festival. Et puis je me tourne vers notre autre invité qui connaît aussi un tout petit peu les correspondances, mais qui est invité ici en tant qu'écrivain, c'est Arnaud Catherine. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Je ferme vite la parenthèse, je l'ouvre, je la ferme, conseiller littéraire des correspondances, mais c'est pas pour ça qu'on vous a invité, c'est parce que tout simplement vous avez sorti un livre magnifique qui s'appelle Pas exactement l'amour, ce sont 10 nouvelles qui sont parues aux éditions verticales. L'amour qui est en filigrane de ces histoires, elles sont indépendantes les unes des autres et s'affichent et se succèdent un peu à la manière de clips vidéo. Les personnages sont attachants, leurs histoires aussi, l'amour sans arrêt et toujours avec au gré des histoires. La lutte des classes, une erreur de jeunesse ressurgit à un mariage, des courses dans une épicerie fine italienne, une grève à la radio, l'amour sans limite pour une star ou bien encore l'importance d'une lampe à filament ou d'une LED dans un couple. Il y a du beau, du moins beau, du fragile, du pathétique et de la drôlerie dans ces 246 pages. Quant au style, c'est du Catherine. Souple et direct, parfois cru, pas vulgaire et très actuel. On sent le plaisir jubilatoire d'écrire et de décrire de l'auteur, de véhiculer les mots, les idées et les images, tout en laissant le lecteur libre d'accepter ou non, d'adhérer au tableau présenté et au parcours partagé. On s'y retrouve aussi parfois au plus profond de soi, sentiments, envie, frustration, plaisir, souvenir, tout ce qui fait l'amour, quoi. C'est un livre confidence, Arnaud, sur l'amour.
D'abord, merci. C'est beau ce que vous dites. J'ai presque envie de me taire. Mais non, je ne peux que gâcher tout ça en parlant.
C'est pas vrai. C'est à cause de l'écriture que je dis ces choses.
Ah ouais, non, mais c'est vraiment beau ce que vous avez dit. Un livre confidence à la cave, peut-être en sous-texte, parce que forcément, quand on écrit sur l'amour, nécessairement, on va chercher en soi. Mais je suis un voleur aussi, comme tous les écrivains, donc je suis sur le motif. Je vais m'inspirer chez les autres, mais bien sûr que je suis en filigrane et en sous-texte. Après, vous avez parlé de plaisir. S'il y a bien un livre que j'ai écrit avec un principe de plaisir, c'est celui-là. jusqu'au plaisir de marrer, d'être désinvolte, d'être cru parfois. Et donc il y a ça, il y a la jubilation aussi, de, comme toujours, de créer des personnages. Donc comme toujours chez moi, c'est un mélange de, bien sûr, de d'intimité, d'autofiction et de fiction pure.
Ces personnages, certains ont existé, ou en tout cas une partie d'eux-mêmes ont existé, existent ?
Ma pudeur m'interdit de répondre.
Bien, c'est déjà un aveu.
Il y a quelques fragments de mon journal intime disséminés, ouais, mais je ne dirais pas où.
Oui, en plus, tout cela ne nous concerne pas, comme diraient des humoristes.
J'aime bien ce pacte de lecture entre nous, François. Ouais.
Alors, Arnaud, c'est vrai que ce livre est particulier parce qu'il est construit effectivement comme une série télévisée avec des clips particuliers qui vont éclater. Alors, là, tout d'un coup, on a une star de la chanson qu'on ne voit pas, mais qui est terriblement présente. J'ai parlé tout à l'heure de ce problème dans un couple que peut représenter une ampoule, filament ou LED, et puis bon...
Enfin, en l'occurrence, dans ce couple-là, c'est l'homme qui pose problème, parce que c'est juste un porc. Hein.
Ouais.
Donc c'est une nouvelle qui parle de la violence conjugale et de la violence faite aux femmes.
Tout à fait, et ça s'appelle en plus Monsieur Bricolage, c'est un petit peu particulier, donc je ne sais pas si vous avez des royalties particulières avec cette enseigne, mais bon, c'est à voir. Comment vous êtes inspiré pour traiter ces 10 histoires, Arnaud ?
Bah en fait, vous parlez de clips, vous parlez d'images, pourquoi pas ? C'est votre subjectivité qui vous fait dire ça. Moi, j'ai plutôt construit comme un album de musique, en fait, ce recueil.
Je m'étais promis de ne pas parler musique avec vous.
Pourquoi ? c'est vrai que je déteste ça.
C'est la deuxième passion d'Arnaud Catherine.
Non, mais à force de travailler, c'est vrai, avec des musiciens et des chanteurs, je les vois travailler en studio, je les vois aussi avec leur label, faire l'ordre, la tracklist, comme on dit, hein, l'ordre des chansons, tout ça. Et j'ai exactement fonctionné comme ça, c'est-à-dire que j'ai réuni pendant 2 ans une vingtaine de nouvelles, tout comme la plupart de mes camarades font 16-17 titres pour n'en garder que 10 ou 11. Avec mes éditeurs, on a fait un choix. Donc on a écarté une bonne dizaine de nouvelles, en essayant de garder les mieux. Mais ça, c'est mes éditeurs qui en jugeaient, pas moi. Et ensuite, on s'est interrogé sur l'ordre. Exactement comme en musique, quoi. Où est-ce qu'on met le single, où est-ce qu'on met des titres plus flottants, plus d'ambiance. Et donc voilà, on a essayé de tracer un relief comme ça. Et donc je dirais que voilà, l'inspiration pour bâtir le recueil, c'est plutôt, je me suis plutôt inspiré dans cet univers musical ou cet univers de concert, parce qu'au fond, un set de concert, on construit ça de façon extrêmement raisonnée comme un album, quoi.
Et puis, il y a des mentions particulières. Il y a, par exemple, un personnage qui fait des tournées musicales, évidemment, et qui nous parle de son problème de mettre un flanger, un délai ou une fuse. Tout ça, ça parle aux musiciens, effectivement. Et on voit que, il y a des personnages comme Florent Marché qui ont marqué votre vie et qui continuent à la marquer. On va parler, d'ailleurs, à la fin de notre entretien de vos projets, Arnaud, à ce niveau-là. Mais revenons à la littérature. Vous l'avez dit, c'est un bonheur pour vous d'écrire un livre, de partager avec les lecteurs, c'est important aussi ?
Ah oui, surtout sur ce livre-là. Il y a des livres que j'ai écrits avec une part plus sombre de moi-même, et du coup, la réception et les interviews et la rencontre avec les lecteurs étaient moins aisées parce que j'étais un peu embourbé dans ma pudeur. Là, y a vraiment eu un tel principe de plaisir, et je vois que les lecteurs et les lectrices... Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand ils me disent qu'ils se reconnaissent là-dedans, qu'ils ont trouvé des bouts d'histoire d'amour à eux. Donc, c'est plutôt facile, au sens où j'ai envie de partager sur ce livre-là. Ça ne désarme pas ma pudeur. Ça fait à peu près 16 fois que je dis ce mot, là, en l'espace de 10 minutes. Ça parle.
Le fait aussi de plonger dans des univers particuliers, par exemple cette épicerie fine italienne qui vient illustrer un repas particulier avec deux personnes qui sont des lesbiennes et une histoire d'amour passée. Y a un côté gourmandise aussi, quelque part.
Ouais, ça va avec la jubilation d'écrire. Le plaisir d'écrire un recueil de nouvelles, quand même, c'est que on peut se plonger dans des univers extrêmement différents les uns des autres, des personnages très différents les uns des autres. Par exemple, s'agissant de l'amour, en 2015, pour moi, par exemple, il était bien évident qu'il fallait que tout le monde soit là, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a des hétéros, il y a des gays, il y a des lesbiennes. Bon, voilà. Et ça, c'est un énorme plaisir que de se plonger. C'est un plaisir de comédien, en fait, de pendant 50 pages, d'être qui l'on n'est pas dans la vie.
Avec un message d'ouverture, en plus, évidemment.
Avec quelques petits messages disséminés ici et là, oui, parce que écrire, c'est politique, même quand ça ne dure que deux lignes.
Et lire même, c'est poétique. Ouais. Donc,
poétique et politique.
Tout à fait, on s'y retrouve, Arnaud. Il y a aussi un moment où j'ai l'impression que vous réglez son compte à une manière d'écouter la radio sur une grève qui s'est passée à la radio et qui permet d'écouter de la musique et non plus les horreurs du monde. Quoi. Et donc là, c'est assez intéressant. Ça fait référence, je suppose, à la grève de l'audiovisuel public.
Vous savez que en fait, il y a une nouvelle ancienne, entre guillemets, c'est celle-là, Silence Radio. Je l'avais écrite pour la revue Transfuge il y a des années et des années, mais j'ai voulu qu'elle figure dans ce recueil. Et je l'avais écrite pendant une grève de Radio France. Et le recueil de nouvelles est sorti en avril, pendant la grève de Radio France. Voilà.
Et qui permet d'écouter de la musique.
Je ne sais pas ce que tout cela veut dire.
Et d'écouter de la musique qui...
Pourtant, j'ai une belle histoire avec Radio France. J'y ai travaillé, j'y suis souvent invité. Mais voilà, ce livre sera d'abord sorti dans un silence radio. Le silence radio n'a pas duré.
Oui, très bien. Et en tout cas, c'est pas sur Fréquence Mistral que le silence s'imposera à la radio, que ce soit pour la musique et pour le reste. La musique, justement, Arnaud, votre collaboration avec Florent Marché, votre frère animal.
Vous êtes au courant de ça ?
Un petit peu, puisque évidemment, j'ai apprécié, j'ai terriblement aimé le spectacle que vous aviez donné avec Valérie Lelieux notamment.
Ouais.
Et c'était un moment fort il y a 2-3 ans, je ne sais plus combien.
Oh non,
Olivier.
Plus.
Olivier Chaudançon qui rajoute, il dit 4 ans. Donc effectivement, le temps passe vite.
On a arrêté la tournée de Frères Animal il y a 5 ans, je vais vous dire. Voilà.
Ah, donc c'était la clôture quasiment à Manosque.
Ouais, ouais.
Cette collaboration avec Florent Marché, qui est ce musicien extraordinaire. Qui
aussi extraordinaire que Babix. Ouais.
Énormément d'importance au poids des mots. Quoi. Et ça, c'est important.
C'est un auteur aussi, Florent. Ouais. Oui. Tout comme Babix d'ailleurs, et tout comme énormément de gens de cette nouvelle scène, Bastien Lallemand, Dieter Zicarlotti, Jeanne Chéral, sont des gens qui écrivent et à les côtoyer dans la vie, je vois qu'ils lisent beaucoup, tous.
Alors justement, Frères Animal 2.0.
Ah. Ouais, ça y est, on est reparti dans la voiture. Depuis la fin de la tournée, on rêve de repartir, mais on se dit qu'on ne peut pas arriver avec un sujet tiède. Et donc, on y a beaucoup réfléchi pendant 5 ans avec Florent. Et nous avons trouvé le sujet de Frères Animal numéro 2. Donc là, ça y est, tout est maquetté. Ce sera un album en octobre 2016. Ce sera un spectacle en 2016 et ce sera un film.
Une fable sociale ?
Ça s'appelle Frères Animal second tour, si vous voyez ce que je veux dire. Et on a à cœur de monter ce spectacle avant les présidentielles, si vous voyez ce que je veux dire.
On voit à peu près. Arnaud, un spectacle qui aura lieu aussi avec une confrontation publique sur scène ?
Ah, complètement. C'est... Autant Frères Animal numéro 1, on avait voulu faire ce livre-disque chez Vertical pour se faire plaisir. Et on l'avait présenté au Café de la Danse une fois à Paris, mais on n'imaginait pas qu'il y aurait 3 ans de tournée. Là, on le conçoit vraiment comme un spectacle. On va être 5 sur scène et non plus 4. On va faire venir un batteur pour épaissir l'ossature musicale. Et on le conçoit alors là vraiment, vraiment comme un spectacle. Oui.
On attend ça avec impatience, j'espère, Olivier Chaudançon, que, qu'on pourra les applaudir prochainement.
Il est pris en otage, là, Chaudançon.
Mais je pense qu'il est consentant, hein, donc ça devrait pouvoir se faire.
Hein. Ah ben, j'ai rien dit.
On va en parler. Bon, en tout cas, moi, c'est mon avis.
Pensez bien que c'est lui qui m'oblige et me force à aller sur la place de l'Hôtel de Ville vendredi. Hein.
Alors voilà, justement, et interviewé par Michel Abescard en plus.
Bon, ça, c'est délicieux.
C'est bien parce que ça veut dire que, effectivement, le conseiller littéraire que vous êtes depuis des années sur la place de Manosque pour les correspondances, eh bien, on reconnaît son talent et tout d'un coup, bah, il va se frotter au même exercice que Javier Cercas et d'autres. Quoi. Donc,
non, mais c'est un exercice tout à fait agréable. Vous parliez tout à l'heure de cette représentation de Frères Animal à Manosque. Ça avait été extrêmement émouvant pour moi parce que je travaillais au festival depuis assez longtemps déjà. Et on avait fait la clôture, je me souviens, le dimanche. Et c'était un jour particulier parce que les commerçants qui sont investis dans ce festival, plein de gens qui travaillent pendant le festival et qui sont arrimés à leur resto, à leur bar ou à leur commerce, pouvaient enfin voir quelque chose. Et donc, il y avait beaucoup de gens très investis dans le festival qui avaient assisté à cette représentation. Donc, on avait vraiment l'impression de jouer devant Manosque, devant des partenaires festivaliers. Et c'était particulièrement émouvant, ce frère animal-là. Ça restera, on en parle souvent avec Florent, comme une des dates qui nous a marqué dans la tournée.
Avec des gens dans le public qui vous connaissent aussi et qui disent ouais, « Tiens, mais c'est ouais. le gars qui a mangé chez moi dimanche. Ouais. Tiens, mais c'est lui qui discutait avec un tel et tout. »
Bon, ça, c'est un des principes du festival aussi. C'est hyper convivial et ça nous arrive absolument tous les jours que le public, les commerçants et les artistes se croisent et discutent et fassent connaissance.
Ça, c'est le plus agréable.
Ouais.
Après, c'est vrai que chacun fait son travail, aussi bien les modérateurs quand ils font des interviews, les écrivains, bien sûr, quand ils viennent faire la promotion de leurs livres, les artistes quand ils se produisent sur scène et qui prennent des risques. Mais c'est vrai que les contacts qu'on peut avoir dans la rue avec un Mabankou, cette année avec un Eddy Kadour par exemple, ou Alice Zénitaire, c'est un bonheur.
Oui, ou tous ces gens merveilleux qui ont été en résidence. On a parlé de Sylvain Prudhomme
oui,
tout à l'heure.
Tout à fait.
Là, il y aura un nouveau résident, tu vas en parler, Olivier, un garçon absolument talentueux et délicieux.
Oh, je peux dévoiler son nom, il se nomme Pierre Ducrozet. Il a déjà écrit 3 livres, je crois, et le dernier se nomme Héroïka, et évoque la figure du peintre Jean-Michel Basquiat. Magnifique livre.
Et pour nos auditeurs, je signale que vendredi, nous aurons et Sylvain Prudhomme et Pierre Ducrozet qui seront là pour passer
bien
le témoin
joué, bien joué.
entre les deux résidents.
Vous ne regretterez pas de faire la connaissance de Pierre.
Oui, je l'espère, parce qu'on va normalement...
On prend soin des résidents à Manosque, on ne les choisit pas n'importe comment.
Oui, tout à fait. Et en même temps, on va passer quelques mois sa compagnie. Donc, on voit les personnes et les personnalités des auteurs évoluer pendant leur résidence. Je pense notamment à Yann Apéry, Jeanne Benhamer avant lui. Des gens comme ça, et puis il y a tant d'autres, Sylvain Prudhomme, bien sûr, et qui se mettent un petit peu au diapason de cette ville étrange qu'est Manosque, où il y a une ombre qui plane qui s'appelle Jean Giono, et puis il y a aussi Magnan, il y a Frény, etc. Mais on a la chance d'avoir un Sylvain Prudhomme, un Pierre Ducrozet, dont on va faire la connaissance vendredi, et c'est une opportunité pour nous, manosquins, que d'avoir ces personnalités. Merci Olivier encore de ces précisions et surtout d'avoir accepté de faire venir le frère animal tour 2.
Par avance, on pourrait parler de la date déjà.
Non,
je pense,
on va
non
signer les contrats bientôt.
C'est dit, c'est enregistré. Merci aussi Arnaud, toutes mes
merci
amitiés.
François.
Et puis et bien sûr, on se croisera
dans
ce festival avec grand plaisir. À très bientôt à tous les deux. Bon festival.
Merci.
La suite de notre émission, toujours en direct de Manosque, pour parler des correspondances. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Ambre Murard. Bonjour Ambre.
Bonjour.
C'est la première fois que vous venez nous voir. On en est très heureux. Je peux vous demander de vous présenter très brièvement, parce qu'après on va parler photographie. L'image, c'est un petit peu votre vie.
Je suis anthropologue et cinéaste et je travaille sur les savoirs et les pratiques du corps et la relation de l'homme avec la nature. Et voilà, c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Hans Sylvester.
Alors Hans Sylvester, chers amis auditeurs, vous savez, c'est cet immense photographe qui a photographié la planète qui se désintègre et qui essaye d'alerter le monde. Il a aussi photographié des peuples dits primitifs, je dis bien dits primitifs, et c'est surtout un esthète incroyable, remarquable, plus de 50 ans de carrière. Il a débuté sa carrière en venant ici même à Manosque en allant voir un certain Jean Giono pour lui demander de faire la préface d'un livre superbe qui s'appelle Camargue. Je ne sais pas pourquoi, mais Jean Giono a accepté tout de suite et la carrière de Hans Sylvester a été lancée depuis environ 50 livres qui ont été dus à l'objectif particulier de Hans, avec toujours cette finesse spéciale de servir la planète dans le cadre de l'environnement ou dans le cadre de l'humanité, avec cette superbe exposition que l'on peut voir actuellement à la Fondation Carzou à Manosque.
Moi, en fait, son premier livre que j'ai découvert, c'est Les habits de la nature, qui a été publié en 2007 aux éditions La Martinière, et où on voit des enfants et des adolescents avec des parures végétales vraiment magnifiques et des peintures corporelles aussi qui sont en mimétisme avec le monde animal et végétal. Et c'est vraiment l'inventivité, en fait, de ces parures et la symbiose avec la nature qu'elle semble manifester qui m'a donné envie de rencontrer Hans Sylvester.
Moi, ça qui m'intéresse, c'est la création. Le talent de ces enfants, c'est quelque chose vraiment inouï. C'est d'une fraîcheur, d'une spontanéité. Ils sont capables d'éviter la répétition. Pour moi, c'est quelque chose de phénoménal. Ils font des choses vraiment abstraites, d'une liberté totale. Et ils le trouvent beau, sinon ils ne le feront pas.
Vous dites que les enfants ne sont pas intéressés à la symétrie, à la précision, mais ce qui les intéresse, c'est vraiment de saisir le mouvement, en fait, qu'ils voient partout autour d'eux dans la nature.
La spontanéité, ce facteur moderne, contemporain dans la peinture corporelle, c'est la vitesse.
Quand ils se parent, est-ce qu'ils ont conscience de réaliser un geste artistique ?
L'art, c'est déjà pour nous, c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est l'art ? Aller vers l'inconnu. Donc là, il y a des éléments. On prend trois herbes, on prend deux fleurs, on prend un bout de liane et on va vers l'inconnu. Donc c'est sûrement une expression artistique.
Et justement, le fait que ça soit un art éphémère fait que c'est un art très vivant, en fait.
Ah oui, ça c'est sûr. Cet aspect éphémère donne énormément de force au geste.
Hans Sylvester, interviewé par Ambre Murard. Ambre, c'est un personnage particulier. Hans, j'ai pas dit tout à l'heure qu'il était allemand, mais ça s'entend un tout petit peu, malgré le fait qu'il vive en Provence depuis déjà pas mal d'années. C'est le plus français ou le plus allemand des photographes provençaux, comme vous voulez. Vous l'avez aussi interviewé sur son approche de l'Afrique, qui est un petit peu spécial.
Moi, en fait, la première question que je lui ai posée, c'est pourquoi est-ce qu'il est allé dans la vallée Lomo, qui est le berceau de l'humanité ? Et il m'a répondu...
C'est en Éthiopie.
Oui, exactement. Et il m'a répondu, en fait, je suis allé sur les traces de Lucie. Voilà. Donc, le début de l'humanité. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas ? Est-ce que c'était justement un sens, une origine de l'humanité ? Et en fait, à la fin de l'interview, je me suis rendu compte que j'avais vraiment la sensation que ce qu'il avait trouvé comme réponse, c'était l'art comme moyen de survie, en fait. Et ce qui m'a frappé, c'est la correspondance entre ce geste des enfants qui se parent, entre autres, pour se dissimuler dans la nature et chasser, donc comme un moyen de survie, et d'autre part, le geste de Hans Sylvester, qui est de saisir la photographie, l'art photographique, comme moyen de sauvegarder l'environnement et donc l'humanité. Donc voilà, c'est ce parallèle-là, moi, qui m'a vraiment frappée. Et oui, il m'a parlé de l'Afrique, il a parlé aussi de son dernier livre, donc Pastorale africaine, et apparemment la relation avec les animaux lui est vraiment à cœur. Et c'est un livre qui est préfacé par Pierre Rabhi.
Ça, c'est aussi des années de travail chez les souris, avec les jeunes, qui sont donc des bergers et qui vivent au milieu du troupeau. Et j'ai trouvé ça tellement formidable, ce contact avec les vaches, que je voulais faire quelque chose. Parce que nous, on est devenus fous. L'histoire de 1000 vaches, c'est la folie absolue. Faire d'élevage intensif à ce point, il n'y a aucune explication scientifique pour faire quelque chose comme ça. Et ce livre, ça montre un peu quelque chose qui était en France pareil. Il n'y a pas si longtemps, chaque vache avait un nom. Aujourd'hui, ils ont des numéros, ils ont une puce sous la peau. Donc, ils vont de la naissance à l'abattoir, anonyme, il n'y a plus personne qui les caresse. La vache a joué un rôle essentiel quand même dans le développement de l'humanité. Maintenant, c'est le profit, c'est la folie du bénéfice, quoi. Et les animaux sont victimes. Il y a des choses que je sais maintenant. Ces vaches qui ont grandi dans ces troupeaux, avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'amour de ces gens, eh bien, ils sont consommés maintenant en Arabie Saoudite. Parce qu'en Arabie Saoudite, on ne veut plus les vaches qui ont connu le stress. Donc, quand même, il est temps de réfléchir un peu. On a dépassé toutes les règles humaines.
Hans Sylvester, qui est présent pendant les correspondances, et il y aura une rencontre publique, je crois que c'est le jeudi 25.
Vendredi 25.
Il y a une rencontre qui est prévue aussi avec des scolaires, évidemment à la Fondation Carzou. Je vous invite, chers amis auditeurs, à visiter cette exposition. Elle est visible jusqu'au 27 septembre à la Fondation Carzou de Manosque. Et c'est une exposition qui est réalisée aussi en collaboration avec les Nuits Photographiques de Pierre Vert, ce beau festival dédié à la photo à Pierre Vert. Ambre, vous l'avez vue, bien sûr, cette exposition.
Oui.
Et elle s'appelle « La beauté du diable ».
Oui. Et justement, j'ai interrogé Hans Sylvester sur la signification de ce titre. Et apparemment, du coup, pour lui, utiliser la beauté, c'est un cheval de Troie pour parler justement des questions brûlantes liées à l'environnement. Et il m'a répondu à cette question.
Mais est-ce que la beauté du diable, c'est justement utiliser la beauté comme un cheval de Troie et comme une façon de pouvoir attirer l'attention sur la destruction du monde par l'homme ?
Mais c'est justement ça, réussir cet univers très négatif en une image ou deux images qui sont tellement beaux qu'on oublie. Et c'est ça qui permet d'informer le public sur le sujet. Il faut reconnaître un peu les lois de la presse. Donc si on touche l'environnement, on va sur des terrains vagues. Donc le rédacteur en chef, pour lui, c'est pas facile publier des choses de l'environnement. Donc si il a deux photos où cette beauté est mélangée avec la folie, alors à ce moment-là, il peut faire deux doubles. Et une fois qu'il a deux doubles qui sont d'une certaine beauté et d'une certaine façon aussi neuves, à ce moment-là, il a la liberté de faire son article.
Hans Sylvester au micro d'Ambre Murard. Ambre, c'est un personnage qui vous a fasciné, Hans?
Oui.
On peut dire ça comme ça? Est-ce que ce sont ces images ou le personnage qui vous ont fasciné?
J'ai eu l'occasion de rencontrer le personnage que 2 heures, mais il a été extrêmement généreux et extrêmement humble. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché, son ouverture.
Dans le cadre de votre travail, vous pensez que ça aura un impact, à la fois son approche et puis son contact?
Moi, je travaille sur la relation de l'homme aux différentes espèces, aux non-humains. Donc c'est vrai que voilà, oui, ça me tient à cœur de voir les photos d'un photographe pour lequel c'est vraiment au centre de son travail. Et je pense, oui, que c'est important pour nous tous, cette question de notre relation et notre interdépendance avec l'ensemble du vivant.
Donc on va encourager tous nos auditeurs à aller voir cette exposition. Attention, il n'y a plus que quelques jours, c'est à la Fondation Carzou. L'entrée est entièrement gratuite pour cette exposition. Allez-y, vous verrez par exemple cette photo moi qui m'a marqué. Il y en a beaucoup qui sont superbes, mais il y a un guerrier érythréen tout nu, évidemment comme le sont les guerriers en Érythrée, avec simplement une kalachnikov. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. C'est la beauté du diable aussi, et qui doit interpeller tous les êtres humains que nous sommes.
J'aimerais juste rajouter que l'interview dans son intégralité va passer à Radio Zinzine jeudi, donc demain.
C'est une interview qui fait combien de minutes ?
48 minutes, avec aussi l'intervention d'enfants de l'école de l'URSS, de Man et les enfants de Longomaille, qui en fait décrivent les photos, et c'est vraiment très beau ce qu'ils disent. Et donc c'est demain à 17h sur Radio Zinzine.
Chez nos confrères de Radio Zinzine.
De votre invitation.
Voilà, merci à vous Ambre, et puis bon travail, on aura l'occasion peut-être de se revoir, et puis je pense que vous allez profiter aussi des correspondances. Oui. Il y a beaucoup de gens, comme par exemple mon voisin à côté qui est resté pour l'instant muet, Charles Berberian. Bonjour Charles.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir. C'est la Merci. Première fois, je crois, que vous venez à Manosque.
Oui,
un festival donc, que vous ne connaissez pas.
Non.
Vous débarquez.
Je connaissais de nom, de réputation, parce que j'ai mes amis, la bande de des siestes acoustiques, ils viennent depuis plusieurs années et m'en parlent. Avec beaucoup de superlatifs, et donc j'avais très envie de venir. Et quand Olivier Chaudançon m'a proposé de venir croquer le festival, de dessiner le public, les auteurs invités, les musiciens, j'ai dit oui tout de suite.
Alors vous êtes dessinateur, hein, vous faites de la bande dessinée ?
Je me définis comme dessinateur, qui est un terme un peu flou pour les gens. On fait toujours le rapprochement avec dessinateur technique, parce que dans ma profession, on se définit plus volontiers en tant qu'illustrateur, donc les dessins qui accompagnent des textes, que ce soit des livres pour enfants ou des articles dans la presse. Mais moi, je préfère en revenir au terme de dessinateur, celui qui dessine.
Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce festival ?
Je vais dessiner.
Oui, je m'en doute, mais quoi ?
Je vais dessiner ce que j'aurai à croquer, à manger avec mon crayon, mes pinceaux. J'ai fait un tour hier avec Olivier des scènes qui venaient d'être montées, notamment celle qui est sur la place de l'Hôtel de Ville, qui est magnifique, avec la
bibliothèque derrière.
La bibliothèque derrière, mmh. Qui, par les rythmes des livres empilés, déjà ça me donne envie de dessiner ça. Mais bien sûr, je vais dessiner les gens qui vont parler devant ces livres, les gens qui vont écouter les auteurs parler et les modérateurs poser des questions. Il y a cette plateforme en élévation, un salon de lecture.
Cet écritoire très particulier avec des fauteuils à 10 mètres au-dessus du sol.
Et les formes de ces écritoires sont des formes assez belle à dessiner. Je vais me rendre au concert et lecture concert, probablement à une des siestes, mais je risque de m'endormir.
Vous voulez mon avis ? Ça m'étonnerait. Même si on est dans une position particulière et nous allons recevoir nos amis, ce que nous appelons, nous, les siestards, ici même, Bastien Lallemand, Albin de la Simone, Camélia Jordana, etc., on les recevra, je crois que c'est demain d'ailleurs qu'on les reçoit, ou après-demain, je vous dirai ça. Oui, c'est demain, très exactement.
La première sieste à laquelle j'ai assisté, je me suis endormi. Hein.
Ah !
Et je devais y participer, et Bastien m'a réveillé en me disant « c'est à toi ».
Oh là là, bon, bah, j'espère que
mais
ça va pas se passer.
Mais c'était un lendemain de fête.
Alors ne faites pas la fête ce soir, s'il
non,
vous plaît.
Non, je vais pas la faire.
Vous faites ce que vous voulez, Charles, c'était une plaisanterie. Mais non, c'est vrai que ce sont des exercices particuliers, puisque il y a des textes qui sont lus, ou des chansons, de manière très intime, et c'est vrai que quand on est allongé dans une ambiance plutôt presque de la pénombre, on peut se laisser aller, mais on peut aussi écouter et avec beaucoup de gourmandise et de saveur les textes. Voilà, et c'est ça qui est merveilleux. Et avec les musiciens, avec aussi des auteurs qui sont invités à Manosque et qui viennent et qui participent à cette manifestation. Vos œuvres, quand vous aurez dessiné, peint pendant les interviews ou les plateaux, on les verra comment, Charles ?
On ne sait pas encore tout à fait. Alors, l'idée initiale, c'était de les accrocher sur le fond de la scène de l'Hôtel de Ville. Mais justement, en voyant cette bibliothèque, je n'avais pas du tout envie de masquer ça.
Des dessins devant des livres, ça ne se fait pas.
Chez moi, je, au bout d'un moment, je pose des images que j'ai trouvées à droite et à gauche devant mes livres. Mais c'est un capharnaüm. N'allons pas dans cette direction-là. Et à côté de cette scène, il y a les bureaux temporaires du festival avec des vitrines. Alors on s'est dit pour l'instant qu'on placerait quelques dessins derrière ces vitrines. Et puis on s'est dit que probablement on en photocopierait quelques-uns de ces dessins pour que le public puisse repartir avec des images. On va voir.
Un petit recueil aussi ou quelque chose sur Internet, de profiter de ce média.
On n'a pas pensé à tout ça parce que l'idée, c'est d'être vraiment dans l'ambiance du festival. Après, moi, ce que j'aime bien avec Olivier, c'est qu'il il donne des cartes blanches, il lance des expériences et on ne sait pas ce que ça va devenir. Et je trouve ça passionnant parce que c'est à la fois des défis qu'on se lance quand on aborde un domaine qu'on ne connaît pas très bien. Moi, je suis plus à l'aise à l'origine, soit dans mon atelier, soit dans le contexte d'un livre ou d'un journal. Donc de me retrouver comme ça en public à dessiner, c'est quelque chose de totalement inhabituel pour moi. Donc mon but premier là, à l'instant où je vous parle, c'est d'arriver à faire des beaux dessins et des dessins qui me plaisent et des dessins qui plaisent aux gens qui vont les voir. Le reste, c'est de la science-fiction.
On aura grand plaisir à découvrir votre travail, Charles. Merci. Une autre question plus personnelle sur votre parcours personnel. Votre nom trahit vos origines, Berbérian, c'est-à-dire l'Arménie.
Oui.
On connaît bien dans le sud de la France ces questions, et notamment avec la diaspora marseillaise arménienne. C'est un sujet d'actualité avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient et la manière dont l'Europe, qui a su pourtant accueillir nos amis arméniens en 1915-17, a du mal maintenant avec cet afflux qui est ô combien important. Vous êtes vous-même né à l'étranger. Je vais vous laisser dévoiler tout ça et peut-être vous demander votre sentiment sur ce qui se passe autour de nous.
Alors, je suis né en Irak en 59. À Bagdad. Mon père y travaillait. Mon père est d'origine pour moitié arménienne, de par son père à lui, et française, de par sa mère. Une française qui a toujours vécu à l'extérieur de la France. Elle est née à Benghazi, en Libye. Elle fait partie de cette communauté de Français expatriés qui sillonnait le Moyen-Orient au début du siècle dernier. Ma mère, elle, ses parents viennent de Chypre. Elle est donc grecque chypriote et elle est née à Jérusalem, tout comme sa mère. Son père à elle est né à Chypre. On a vécu en Irak et au Liban avant de venir s'installer en France en 1975 à cause du début de la guerre civile à Beyrouth. Voilà. Et puis, moi-même, je m'intéresse à cette histoire d'une manière beaucoup plus pointue depuis pas très longtemps, en fait. Parce que quand j'étais petit, c'était une espèce de brouhaha ambiant qui m'était pas évidemment très agréable. On n'en parlait pas plus que ça, parce que je sais pas pourquoi, le génocide arménien, mes grands-parents l'ont vécu. Ils sont partis d'Istanbul en 1921 pour s'installer au Liban. Mais on n'en parlait pas. Il n'y a pas de souvenirs familiaux transmis. Donc ce que je voulais dire, c'est que je m'intéresse à cette question d'une manière plus précise. Je lis des livres d'histoire, des livres, des romans qui sont très bien documentés, notamment un livre qui s'appelle « Nuit turque », dont je ne me souviens plus du nom de l'auteur, malheureusement, qui est un livre assez étonnant sur la manière dont s'est déroulé ce génocide. Et un autre livre qui a été écrit par un instituteur... c'est le petit-fils de l'instituteur qui a écrit ce livre, un instituteur qui vivait à Istanbul au début du siècle dernier et qui instruisait les enfants du sultan et qui a écrit un livre sur la chute de l'Empire ottoman. Donc je connais un peu l'histoire et je peux vous dire en tout cas que ce bordel, je ne sais pas comment dire les choses autrement, n'est pas récent, bien sûr. Il est violent depuis le lendemain de la guerre de 14-18. Il a commencé effectivement avec le Géonésiste en 15, mais cette espèce de bouillonnement ingérable par les autochtones et par les forces extérieures qui essayent de d'influer sur la vie de cette région, c'est dès le lendemain de la guerre de 14-18 que ça a commencé. Et on est encore dans cette histoire-là aujourd'hui, avec très régulièrement des flux migratoires incontrôlables, des guerres tribales, civiles, des massacres, des génocides, des choses atroces. Les Kurdes, on parle en ce moment des Syriens, mais les Kurdes ont tout au long de cette histoire subi un traitement violent assez horrible. Tout le monde est victime. Hein. Moi, je fais pas partie des gens qui choisit un camp, même dans le contexte de cette espèce de débat turco-arménien. Moi, je trouve que tout le monde a souffert. Voilà. Et
vous voyez actuellement à la télévision, c'est le gros changement par rapport à 1915, la télévision et l'information en temps réel. Quand vous voyez cet afflux de réfugiés, vous pensez à vos aïeux?
Je sais pas si les choses ont changé, parce que je crois que trop d'images vident l'image de son sens. On comprend plus rien. Genre, moi, je regarde plus la télé, en fait, parce que tout se mélange, on prend pas le temps de comprendre vraiment. Je pense à mes aïeux ou mes parents, parce que à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai 56 ans, mon grand-père et mon père ont dû changer de vie, mais complètement, radicalement, changer de pays. Même pour mon grand-père, il était plus jeune que moi quand il a dû partir à la fois de Turquie, mais aussi quand le Liban l'a obligé à changer de métier. Enfin, c'est parce que toutes ces régions-là étaient très fragiles. On ne décidait pas de ce qu'allait être sa vie. On ne se projetait pas 10 ans ou 20 ans dans l'avenir. On vivait plus ou moins au jour le jour. J'y pense, mais je pense à nos enfants. Enfin, moi, j'ai une fille de 23 ans, mais je pense à ce monde qu'on est en train de créer. Et curieusement, de manière totalement peut-être contradictoire, je ne suis pas forcément pessimiste. C'est-à-dire que je trouve que les choses, malgré tout, avancent. Et ça donne des situations violentes. Mais je crois qu'on est tous de plus en plus conscients qu'on vit sur la même planète qui n'est pas si grande que ça.
C'est une parenthèse qu'on a ouverte un peu particulière.
Je suis désolé de
parler. On a parlé d'autres choses,
ouais.
De dessin. Non, c'est très bien. C'était intéressant et ça permet de voir que les personnes qui viennent aux correspondances ont aussi un bagage personnel, professionnel, particulier. On aura l'occasion de vous voir sur et plutôt à côté des scènes de Manosque, vos crayons et pinceaux à la main, Charles Berberian,
oui.
Et puis éventuellement de discuter avec vous de tas de choses. Et de dessin, bien sûr, ainsi que de votre parcours. Merci encore d'avoir été mon invité. À très bientôt. Merci aussi, Camille, pour la régie. Demain, on se retrouve ici même encore pour la deuxième émission des correspondances. J'aurai le plaisir de recevoir le président de l'association des Amis de Jean Giono. Nous parlerons de la correspondance de Jean Giono. Notre ami Jacques Méni sera là. Et puis, les siestars aussi seront là, c'est-à-dire Camélia Jordana, Albin de la Simone, Maëva Lebert, évidemment, Bastien Lallemand, voir d'autres personnes. Nous parlerons aussi du spectacle de Gwenaël Aubry. Elle sera présente avec Théo Acola, puisque Maëva Lebert et Bastien Lallemand participent à ce festival. Et puis j'espère aussi vous proposer les interviews d'Alice Zéniter et de Philippe Artière, ainsi que bien sûr les interviews de nos deux amis qui sont bibliothécaires à Manosque, Nathanaël Coriol et Sylvie Peson. Ce sera demain dans notre émission spéciale des correspondances en direct à 11h. Et puis, d'ores et déjà, vous savez aussi que ces émissions seront disponibles très prochainement sur Internet, sur notre site fréquencemistral.com. Merci encore, Camille, pour la régie et à demain pour les correspondances Manosque-La Poste.
Merci François, à demain.